Je ne traiterai pas du sujet qui avait été annoncé, à savoir détente et respiration. Ce n'est pas que j'estime ce sujet sans importance, loin de là. Seulement, on le trouve traité assez souvent. Une cassette que vous pouvez trouver au stand de librairie intitulée « Se détendre pour prier » présente une méthode d'initiation à la détente. Et j'aborderai un sujet qui, si j'en juge par certaines lettres d'entre vous que j'ai reçues, est très désiré. À une religieuse missionnaire, faisant peu de place à l'oraison, je m'étais permis de dire « Votre négligence est une manière d'infidélité envers les populations au milieu desquelles vous vivez. » Elle me rétorqua que je prie ou ne prie pas, ça ne regarde que moi, c'est affaire entre Dieu et moi. Non, lui ai-je répondu, l'oraison a une dimension sociale que le cardinal Danielou d'ailleurs évoquait en intitulant un de ses livres « L'oraison, problème politique ». Et pour mieux illustrer ma pensée, je lui citais trois lignes de Saint-Exupéry. Celui-là qui veille modestement quelques moutons sous les étoiles, s'il prend conscience de son rôle, se découvre plus qu'un serviteur. Il est une sentinelle et chaque sentinelle est responsable de tout l'Empire. Cela n'est-il pas a fortiori vrai de celui qui prie, responsable de tout l'Empire? Nous, chrétiens, devrions avoir l'intelligence de penser et le courage de dire le drame de notre planète, qui chaque jour devient plus terrifiant, a pour cause l'oubli par l'homme du précepte fondamental « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu n'adoreras que lui seul ». Le dire, oui, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut apprendre de toute urgence à prier et enseigner aux hommes à le faire. Je dis que c'est urgent car, j'en suis convaincu, notre monde est arrivé à une alternative tragique. Ou prier ou périr. Je veux consacrer ce dernier entretien, le tout dernier de nos cinq soirées, à commenter cette grave affirmation dont je ne voudrais pas que vous la preniez pour un propos pessimiste ou une amplification oratoire. Analysons d'abord sommairement la situation de l'humanité que, pour simplifier, je diviserai en pays riches et en pays pauvres. Considérons d'abord les pays riches. Pour assurer leur prospérité présente ou à venir et leur sécurité qu'ils savent précaire, ils ont des besoins financiers gigantesques. Aussi bien, ils misent pour accroître leurs revenus sur un accroissement accéléré et indéfini de la production et donc sur un accroissement corrélatif de la consommation. Société de consommation, l'expression est singulièrement juste. Produire toujours plus, consommer toujours plus, c'est la loi impitoyable à laquelle se sont asservis les pays riches. Et en fin d'année, chaque pays proclame comme un titre de gloire « Chez nous, la production s'est accrue de 5, 10, 15%. » Et comme il ne faut surtout pas que les appétits multiples des consommateurs perdent de leur avidité, les pays riches ont grand soin de mobiliser médias et publicités soigneusement couplés pour entretenir, pour exercer les appétits des consommateurs. Et de fait, la boulimie des consommateurs ne cesse pas de grandir. Mais la production suppose des ressources naturelles. Aussi, les pays riches ont entrepris d'exploiter la planète. Il serait plus juste de dire de piller la planète. Ils se sont lancés dans l'aventure comme si ces ressources naturelles étaient inépuisables. Et voilà que depuis peu, ils s'avisent de découvrir que le pétrole, que les minerais précieux, que l'eau elle-même pourraient venir à manquer. Et nous le voyons, ils s'affolent à la pensée d'un rationnement des matières premières qui compromettrait leur production. Et l'on devine sans peine qu'ils cherchent les moyens de s'emparer, de s'assurer de ces ressources naturelles dont ils ont un besoin vital, et gronde la menace de guerre. De leur côté, les pays pauvres deviennent conscients que les richesses qu'ils détiennent ont permis aux pays riches un extraordinaire accroissement de leur niveau de vie, tandis qu'eux-mêmes sont restés souvent dans une extrême misère et le seront de plus en plus si rien ne change, si leur démographie continue de courir. Alors ils se révoltent, alors la colère gronde, et l'on voit se profiler à l'horizon le grand affrontement entre les deux moitiés de l'humanité. Un désastre planétaire est-il encore évitable? Il faut l'espérer. En tout cas, il faut tout faire pour le conjurer. La solution ne fait pas de doute. Il s'impose que les pays riches changent de cap, fassent un retournement à 180 degrés, que la finalité de leurs activités ne soit plus l'accroissement inconsidéré de la production-consommation des biens matériels. Et je sais bien, ce n'est pas simple. Le seul moyen de réaliser cette mutation serait-il ce que Denis de Rougemont appelle la pédagogie de la catastrophe? Je ne peux le croire. Les chrétiens, l'Église, détiennent avec l'Évangile le secret de la conversion des sociétés comme des individus. Encore faudrait-il que les chrétiens osent le penser, qu'ils aient le courage d'aligner leur vie sur l'Évangile et d'amener la société à abandonner son échelle des valeurs pour adopter celle du sermon sur la montagne, des béatitudes. Nous, chrétiens, souvent, comme les autres, nous avons semblé croire que les béatitudes étaient un idéal pour les rares amateurs de grandeur spirituelle. Il serait peut-être temps de comprendre quels sont le secret donné par Dieu aux hommes pour trouver non seulement l'équilibre et le bonheur individuel, non seulement le salut individuel, mais l'équilibre et la paix de la planète entière. Je sais bien ce que nos contemporains rétorquent à de tels propos. Mais ce sont les pays riches qui sont les grands responsables de la crise actuelle du monde. Et ces pays riches sont ceux où le christianisme est la religion majoritaire depuis plusieurs siècles. Un tel christianisme s'est disqualifié. Et au mieux, ces critiques nous concèdent que la religion chrétienne est affaire privée, mais qu'elle ne peut apporter de solution aux problèmes politiques, sociaux, économiques, culturels. C'est bien vrai que l'Occident a été la terre d'élection du christianisme, et c'est vrai aussi que les chrétiens se sont laissés embarquer dans la course frénétique à la consommation. Mais cette constatation n'infirme pas la valeur de l'Évangile. Elle prouve seulement que les chrétiens se sont trop souvent contentés d'une adhésion intellectuelle à l'enseignement du Christ, aux béatitudes. Ils n'ont pas appris à vivre les béatitudes. S'ils avaient vécu l'enseignement du Christ, s'ils avaient au moins loyalement essayé de le vivre depuis des siècles, ils auraient imprimé une toute autre orientation à la société et à la civilisation. S'ils n'ont pas vécu cet évangile, à quoi ils croyaient cependant? C'est que, il faut bien le constater, cet évangile n'est vivable que par ceux qui prient. La seule certitude qu'il y a un bonheur après la vie, la conviction seulement intellectuelle que le Christ a proclamé la vérité, ça n'a jamais fait changer de cap une vie humaine, pour la bonne raison que les biens terrestres sont trop captivants. Certes, il y a l'exemple de nos grands saints, les Benoît, Bruno, François et Claire d'Assise, François-Xavier, Marie de l'Incarnation, Charles de Foucault, et de tant de leurs disciples. Mais que constatons-nous en lisant leur vie? C'est que ce n'est pas le seul enseignement qui a décidé de leur retournement. C'est la prière, l'expérience de Dieu qu'ils ont faite dans la prière. C'est la fascination de Dieu qui les a fait renoncer à la fascination des richesses. Écoutons-les, tous nous disent à leur manière, comme Jérémie, « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. » Je suis convaincu que si depuis 20 siècles, l'immense effort de prédication, d'enseignement, de catéchèse, c'était doublé d'un non moins puissant effort d'initiation à la prière intérieure, la face du monde serait tout autre. En fait, vous le savez comme moi, tant d'enfants suivent le catéchisme qu'ils n'apprennent jamais à prier. Tant de filles et de garçons, après 8 ou 10 ans dans un collège catholique, ignorent tout de la prière. Et s'ils éprouvent le besoin d'intériorité, c'est au maître bouddhiste ou hindou qu'ils recourent. Et je connais des garçons qui ont tout quitté pour le service du Christ et qui ignorent tout de la science et de l'art de la prière intérieure, après 4 ans de théologie. Constatons-le, on a dispensé un enseignement, on n'a pas enseigné à vivre cet enseignement par la prière. Il est encore possible, j'en suis sûr, de faire échapper les hommes à la fascination des richesses qui a conduit notre monde au bord de la catastrophe, mais le moyen et le seul, c'est d'amener le cœur des hommes à se laisser fasciner par Dieu dans la prière. Prier ou périr, je crains fort qu'il n'y ait pas d'autre alternative.